encore été portés contre lui au moment de sa nomination. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Et de retour à Paris, il est 9h10. Très bonne journée à l'écoute des RFI.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Christian Bobin écrit « La lecture est un billet d'absence, une sortie du monde. » Lire, quand on est enfant, c'est quitter sa famille et devenir jeune mendiant. Tendre la main au prince de passage, c'est aller en Sibérie avec loup et cris de neige. Si loin que votre mère ne vous retrouvera plus, criant « à table !» dans le désert, loin, très loin du petit contemplatif aux yeux bruns verts gelés comme un lac. Nous vous invitons à écouter quelques lettres du dernier recueil de Christian Bobin, intitulé « Un bruit de balançoire ». Ce poète écrit à la main, les premières lettres en témoignent. Les destinataires sont divers, elles sont adressées à sa mère, à l'ami, à un nuage, à une sonate, au poète Ryokan, ce moine ermite japonais, génie de l'enfance. Mais elle semble s'adresser à tous, et à nous en particulier.
Je rêve d'une écriture qui ne ferait pas plus de bruit qu'un rayon de soleil heurtant un verre d'eau fraîche. Ils ont ça au Japon. Un de leurs maîtres du 19e siècle, Ryokan, est venu me voir. Vous verrez, il n'a qu'une présence discrète dans le manuscrit. Il se cache derrière le feuillage de l'encre comme le coucou dans la forêt. C'est que je crois qu'il est vital aujourd'hui de prendre le contre-pied des tambours modernes, des enchantements, railleries, nihilisme. Ce qui nous sauvera, si quelque chose doit nous sauver, c'est la simplicité inouïe d'une parole. Ryokan, je ne le connaissais pas il y a 2 ans. Et puis je le découvre et je revois des pans de ma vie. Moi aussi j'avais 30 ans. Aucune place dans le monde, comblée de jouer pendant des heures avec des enfants. Moi aussi j'aimais, et j'aime de plus en plus à présent qu'ils sont menacés, la course des nuages, les joues timides de l'automne, le bleu bravache des étés. Je n'ai pas écrit un livre sur Ryokan, mais un livre avec lui. C'est assez simple, je ne crois qu'au concret, au singulier, aux maladresses de l'humain, pas au prestige des machines. Les livres sont des âmes, les librairies des points d'eau dans le désert du monde. Les lettres manuscrites sont comme les feuilles d'automne. Parfois un enfant ramasse l'une d'elles, y déchiffre l'ampleur d'une vie en feu à venir. Ce qui parle à notre cœur enfant est ce qu'il y a de plus profond. J'essaie d'aller par là. J'essaie seulement.
Je suivais le cortège funéraire de mon dernier manuscrit. Le chemin était en pente, les cailloux rissolaient. Nous allions de l'été à l'automne, comme on passe sans s'en rendre compte une frontière. Non, plutôt comme on marche, sans les connaître, sur d'anciennes tranchées. Le sol était rempli de guerre et mon cœur était en paix. Je suivais le corbillard invisible de mon manuscrit. Je l'avais relu la veille et, comment dire, c'était comme si j'avais regardé passer sur le fleuve de papier des troncs d'arbres flottants, s'entassant et ne bougeant plus. Mes mots ne donnaient qu'une lumière morte. J'ai ramassé les feuillets, tout jeté. C'est ce cortège que je suivais le lendemain. Les funérailles de mes trouvailles. L'enterrement se terminait au bout du chemin, près de la voiture qui mangeait son foin. Je suis rentrée dans la maison où mon enfance m'attendait. Je me suis trouvée devant moi-même à 8 ans. Je me suis donné un feutre. Tiens, écris, moi je vais me promener. Je reviendrai te voir quand tu auras fini. L'enfant, moi, a souri, puis il a plongé la tête, sa grosse tête butée, granitique, picorée de flammes, dans le papier blanc. Je suis sortie. Il m'a semblé qu'il écrivait des lettres. Il ne sait écrire que ça. Sa vie n'est rien qu'écrire. Le panda mange de l'eucalyptus et lui, de l'encre.
Frère nuage, la vie de mon père a commencé de se défaire comme toi, déchirée doucement, peu à peu, sur les bords. Je me souviens de ses yeux dans la nuit inhabitée de l'Hôtel Dieu. Deux anges en sueur d'avoir triomphé de sa mort à venir. Et l'amoureuse, nuage, l'amoureuse. Je revois son avancée de soleil triomphant. Tout ce qui la précédait était, elle, déjà, une bonne humeur de l'air, un frémissement de l'invisible. Quelle chance de ne plus pouvoir rien faire, juste mâcher et remâcher l'herbe sainte de son prénom. Et puis, elle s'est effacée du bleu. C'était un jour d'été. On appelle ça « mourir ». Moi, je dis que c'est rejoindre la terre immaculée des poèmes. La vie passe à la vitesse d'un cri d'oiseau. Et puis, il y a cette lenteur hypnotique des nuages. Cette poitrine ouverte dans le bleu et ce cœur enneigé qui s'offre à notre cœur. J'ai le corps lourd, je danse comme un ours. Ma tête est entre celle du boxeur et du bébé. Mon cœur est un nuage. Il va, il va, il va. Il connaît chaque silence des lacs de poèmes au-dessus desquels il plane. Regardant sa robe déchirée par des semaines de vagabondage, Ryokan dit « Rien dans ma poche. Tout pour la beauté du vent et de la lumière. » J'ai dû faire une erreur dans ma carrière. À à Crans Montana au réveil, j'ai vu les nuages ceinturer la montagne. Je n'avais plus besoin de rien. Je n'étais plus personne. Il y a en nous une légèreté si grande que si nous la laissions être, nous n'existerions plus. Ou alors, comme existent les poèmes et les portes dans les rêves. Écrire, frapper l'une contre l'autre deux cymbales de silence. Un jour, il nous faudra traverser une vitre sans la briser. L'effort sera terrible, qui changera notre cœur en rayon de soleil. Mourir sans effroi est le privilège des nuages. Combien de cieux verrai-je avant ma mort? Et combien après? Les plus beaux opéras se donnent en secret. Enfant, j'écoutais dans le noir de ma chambre les voix des parents parlant avec confiance de l'avenir. Aucun chef-d'œuvre ne m'a donné autant de paix. À part toi, petit nuage, à part toi.
Marina, je suis restée des années à ta porte. Je n'osais pas entrer. Je croyais que tu n'aimais que toi, que tes feux de langage n'étaient que la dévoration d'un cœur par lui-même. Et puis, j'ai compris que tu faisais ce travail de la pensée que les penseurs ne font jamais. Secouer le vieux tapis du langage, le battre jusqu'à voir réapparaître dans sa trame la mystérieuse image de nos vies éternelles. Quand je te lis, le bois de mon crâne se déplie comme les panneaux d'un triptyque où sont peintes la Russie en sang avec la fleur de neige de ton cœur. Tu es épuisante comme une sainte. Marina, je te cherche dans les feuilles mortes du calendrier. Ta dernière maison à El Abouga, ses murs étaient en bois de naufrage. L'ange a relevé ses filets, tu faisais une belle prise. Et te revoilà, tes yeux dans mes yeux qu'un peu de neige enchante. La vie, la percée volcanique de ces jonquilles, je ne la vois jamais mieux que dans tes carnets. Ce que nous avons perdu repose dans les livres enneigés des poètes. Aussi chez les premiers oiseaux de mars qui essaient leur chant comme les violons grincent en or avant le début du concert. Le cœur est la seule destination. On y arrive quand on ne croit plus rien. La neige avait pris le pouvoir. C'était dans les premiers temps où j'habitais la maison dans la forêt. Une nuit, la voiture roulait doucement dans le sous-bois. Un blanc très bleu couvrait le pré. Une housse de silence enveloppait la maison comme un fauteuil dans une pièce désertée. Tout arriva lentement, comme dans un amour vrai. La fraîcheur blanche, la voiture calme qui commençait à freiner, nos souhaits d'une vie aussi contemplative que dans l'enfance, et la chouette effraie qui s'est arrachée délicieusement du toit. S'est envolée au ralenti, comme une neige quittant la neige, ses ailes battant le grand silence du temps, lente à apparaître, lente à disparaître. C'est une des plus belles lectures que j'ai faites dans ma vie, car tout est lecture. Une avalanche de douceur avec la lune pour juge de paix. Les animaux sont des lettres qui traversent nos jours. Notre recours en grâce et dans leurs yeux, le paradis et leur souplesse. Le poème de la chouette effraie que le crissement des pneus sur le sol durci avait inquiété, je l'ai vu se perdre dans le noir gelé d'étoiles. Je n'ai jamais pu terminer ma lecture. Parfois, rentrant des courses, je vois un daim bondir par-dessus la route, relier les deux parties du bois. Le monde est rempli de poèmes affolés et d'assassins raisonneurs. C'était il y a 10 ans. Combien de temps vit une chouette effraie? Dans le cœur de ses témoins, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, Marina. Je me souviens de la neige tombant sur un livre que je tenais dans la rue. La danse indienne des flocons sur la couverture. La neige et l'encre, matière première du paradis. J'aimerais offrir à la poétesse Marina Tsvetaeva, qui n'est plus que poussière, la robe rose dont elle a rêvé toute sa vie.
As-tu formé ma tête dans le secret de tes entrailles? Comment, par quel songe jamais dit, as-tu modelé mon cerveau de façon à ce qu'un jour une phrase m'affole et me détourne de mes projets? Nos projets sont un labyrinthe de verre avec des traces de doigts sur les portes, le palais des glaces à la foire. Nous n'y entrons que pour en chercher la sortie. Je pensais ce soir faire du courrier et me voilà perdue dans la forêt de Compiègne. Je rangeais des livres. Ils ont leur vie sauvage. J'ai un carton plein de Nerval. Je voulais y remettre une vieille édition jaune d'or décolorée. Je n'aurais pas dû m'asseoir. Je me suis assis. J'ai relu le chapitre 4 de Promenades et souvenirs. J'ai entendu le piège se refermer sur moi au bruit sec d'une phrase. Le même qu'entend le renard quand une de ses pattes vient d'être prise dans une mâchoire de fer. Il n'en sortira pas. Seul un nouvel amour a cette emprise. Il mourra sur place où il lui faudra s'amputer de la patte captive. La phrase, je la recopie et c'est un délice de peindre la prison où je suis entrée sans savoir. Réentendre le claquement des mâchoires de l'encre, l'impossible guérison d'une plaie si belle. Ce n'est pas un accident rare qu'un cheval échappé à travers une forêt. Et cependant, je n'ai guère d'autre titre à l'existence. Le grand-père de Nerval, quand il était jeune homme, avait la garde de ce cheval. Un jour, il s'est assis au bord de l'eau, rêveur. Quand il s'est retourné, le cheval avait disparu dans la forêt de Compiègne. Grondé par son père, le jeune homme avait fui sa famille, était parti vivre ailleurs, loin, où il avait trouvé sa future épouse. La mère de Nerval était née de cette union, de cette fugue, de cette bête soudain et à jamais invisible, de cette rêverie au bord de l'eau sur laquelle du ciel et des nuages venaient prendre conscience d'eux-mêmes. Je vois ce cheval. J'entends son galop depuis la prison bienheureuse de ma lecture. La voix si douce de Nerval déchire mon cœur comme du papier. Je n'ai guère d'autre titre à l'existence. Il faut avoir une force terrible pour supporter de lire un seul poème. Aller au-devant d'une phrase comme au-devant de sa propre mort. Accepter de n'être plus protégé par rien et recevoir le coup de grâce d'une parole claire en son obscurité. Seulement dire la brièveté de l'Éternel, très simplement. Et c'est le cœur qui s'affole comme une petite bête sauvage quand l'épervier fond sur elle. Le cheval du songe m'a jeté bas, mère. Ma tête a éclaté. Je ferai ce courrier et demain j'irai chercher du pain. Mais ce ne sera que la promenade du prisonnier. Le cheval des poètes est son cavalier. Il court sur les espaces gelés du monde, assez vite pour que son poids ne fasse jamais céder la glace. Le paradis est cette course, mère. C'est ma plus belle vie, écrire. D'ailleurs, je n'ai guère d'autre titre à l'existence.
Mais pour mériter ce nom de cher ami, il vous faudra aller au bout de cette lettre et la comprendre toute. Vous m'invitez donc à voyager et à venir en Suède. Je me demande pourquoi vous tenez tant à me faire souffrir. Je vais parfois à Paris. Les hommes d'affaires qui, dans le train, font gravement leurs additions sont mes frères perdus. Le poème est ce marteau rouge vif dans un boîtier qu'on voit à l'entrée d'un wagon. Il parle, parle, et ne brise jamais la vitre du petit boîtier accroché dans leur âme couvert de poussière. Paris n'est pas sans charme, mais pour vous dire, un jour, Ryokan, jouant en cache-cache avec les enfants du village, s'enfouit dans une botte de paille. Les enfants le cherchent, appellent, renoncent, s'en vont. Ryokan passe toute la nuit dans le tombeau solaire, retenant son souffle, certain que les enfants le cherchent encore. J'en suis là, mon ami, depuis toujours, dans la botte de paille. Bien sûr, la vie se moque de nos goûts. Elle dresse la liste de tout ce que nous n'aimons pas et en fait un plat qu'on apporte sur la table devant nous. Toute réclamation serait inutile. D'ailleurs, la servante a disparu, le patron est invisible et les autres clients s'extasient sur la nourriture. Il m'arrive donc de voyager pour répondre à des questions sur mes livres. C'est comme s'ils avaient été arrêtés sur la voie publique, emmenés dans un commissariat où je viens les sortir de ce mauvais pas. Je reviens chez moi, harassé. Pendant des heures, j'ai soulevé le Mont Blanc. Je l'ai porté à bout de bras avant de le remettre en place au millimètre près. C'est comme les fêtes, si vous voulez. Le plus beau de nos fêtes, c'est quand elles s'achèvent et se défont lentement. La fatigue comme un lait sur les visages, les au revoir sous la lune. Faire quelques pas sur le trottoir, pousser la petite barrière rouge du cœur et rentrer dans la maison d'un silence heureux de nous revoir. Ils sont partout, sauf en eux, ces gens qui font le tour du monde. Le plus long voyage que j'ai fait, c'était dans les yeux d'un chat. Les bêtes sont des anges. Leur silence est proche de celui des livres. Leur silence est de l'encre. Ils portent une tunique de papier, une ceinture d'encre. Ils entrent dans notre cœur et ils parlent. De l'intérieur de nous, sans mots. Les livres qui n'ont pas cette grâce ne sont que des marchandises, pesanteurs et poisons. Les livres anges, les livres animaux s'endorment, une joue plaquée contre la paroi intérieure de notre cœur. L'enfant Ryokan passait tant de temps à lire que pour se moquer de lui, les villageois l'appelaient « lampe allumée en plein jour ». J'ai passé mes années de jeune homme à lire, allongé sur un lit comme sur la planche savonnée où on couche les marins morts, prêts à glisser aux abîmes. Les plus grands voyageurs, et peut-être les seuls, ce sont les morts. Je suis allée porter des primes verts à ma mère, mais sa tombe était vide. Je l'ai su en me relevant, après avoir posé les fleurs contre la dalle à l'abri du vent. Il y a quelqu'un en moi qui sait où et quand je dois aller. Derrière ces réticences, un trésor. Surtout, ne rien faire qui pourrait amener de la tristesse. Je connais bien la Russie, figurez-vous. J'y vais souvent la nuit écouter ces poètes assassinés. Un flocon de neige est mon passeport. Les aéroports se ressemblent, pas les poèmes. Si vous comprenez cette lettre, si vous la comprenez vraiment, et si vous renoncez à me promener en Suède, menottée de gentillesse, alors oui, vous méritez ce titre d'ami. Et qui sait, peut-être nous verra-t-on un jour ensemble dans les rues de cette ville incroyablement souriant.
Jeune Jean de Lotz. La lune brille entre les branches d'un arbre comme un ballon d'enfant lancé trop fort. Dans la campagne, la nuit, quand il n'y a pas d'éclairage, les étoiles s'approchent et c'est comme une déclaration d'amour parce que leur lumière est sans perte. Ces étoiles, c'est tout ce que je sais de vos yeux. Un jour en Pologne, dans la ville de Lotz, j'ai marché dans les rues qui furent celles de votre ghetto. Je ne savais rien de votre histoire. Je ne l'ai apprise qu'à mon retour. Il n'y avait aucune trace visible de votre martyre, aucune plaque, rien. C'est égal. J'aurais dû avoir le cœur d'entendre vos cris brûlant le ciel 50 ans après. L'air garde mémoire de tout. J'étais gai, insouciant. J'aimais ce pays avec ses plaines égalisées par la truelle d'un ciel gris clair. Ces gens qui marchaient très tôt le matin sur les routes infinies, portant un sac sur lequel je n'aurais pas été étonnée de lire « Paradis ». J'étais en accord avec tout et je vous ignorais. Le bonheur est un meurtre. C'est une jeune exilée qui m'a parlé de vous. Elle tremblait dans le jardin, sa robe déchirée comme si elle avait traversé des barbelés, couru jusqu'à s'arrêter là, devant le pommier, à bout de souffle. Une fleur d'églantier, c'est ce qu'elle était, mais elle m'a paru comme une reine perdue, la déesse du bref, si présente à elle-même et au monde qu'elle en devenait invisible. Elle baignait dans l'infini, comme en témoignait le rose timide du bord de ses pétales, du tour de son jupon. Elle entrait en moi parce qu'elle avait de blessés. Elle me parlait de toutes les déchirures du monde, d'une voix si radieuse que le ciel s'étonnait. Une fêlure rose dans le marbre du temps. Les jours ont passé. Elle a disparu, la petite mendiante de Lewis Carroll. Elle a disparu, mais pas sa vibration rose qui enflammait la nuit du monde. J'avais vu cette fleur, et parce que je l'avais aimée, les enfers ne la prendraient pas. Vous savez, ce silence massif des enfers, ce rosier dont les roses sont de marbre et de cris étouffés. Dans le ghetto de Lodz, je m'en veux de n'avoir pas entendu vos cris d'enfants détruits. Maintenant, je saurai les reconnaître. Maintenant qu'une fleur d'églantier m'a appris la langue des absents et que personne ne manque. Pour sa couture, ma mère renversait sur la table noire une boîte en fer emplie de boutons de toutes les couleurs. Les boutons brillaient comme des larmes. La main qui fouillait, écartait, retenait était celle du jugement dernier. Ma main droite se détache de moi. Elle ouvre un livre de Ryokan, un poème écrit au 7e mois de l'année 1830. Il dit qu'il est malade, qu'il ne mange plus, qu'il dort mal. Ma main se pose sur son front pour le guérir. Je crois que j'ai toujours écrit pour sauver quelque chose ou quelqu'un. Les lettres arrivent toujours à leur destinataire, même quand on ne les envoie pas ou que leur destinataire n'est plus. Les calligraphies de Ryokan ressemblent à ces filaments qui apparaissent entre le monde et nous quand nous pressons nos pouces sur nos paupières closes. Alors c'est vrai que désormais, on ne verra plus d'écriture manuscrite, plus de mains humaines et qui dansent nulle part, c'est vrai. Ces mandarines devant moi, dans l'assiette creuse, leurs petites têtes rasées de près, on dirait une congrégation bouddhiste dans la vallée. Robes oranges et chuchotements moqueurs. Des boulets tombés du ciel qui se refont bravement en petites montagnes. Elles sont le charbon de Dieu. Son charbon à lui qui grelotte de ne pas exister. Je les aime. Ce que j'appelle aimer, c'est remercier pour une force donnée. Il y a celle qui a des taches et celle qui renvoie mieux la lumière que les autres. La vie est injuste, n'est-ce pas? Elles sont vivantes, même celle qui a commencé à pourrir. Qui sait? Elle a peut-être en elle plus de joie que nous tous. J'écris pour vous passer en contrebande cette mandarine. Je tiens le feutre loin de sa pointe. Si j'appuie trop, ma phrase se brise. L'humain est un tissu qui se déchire facilement. À l'instant où j'arrache la dernière page du calendrier, les fantômes se serrent contre moi de peur d'être abandonnés sur l'autre rive. Le grincement d'une balançoire vide résonne jusqu'à la fin du monde.
Chère âme, j'ai entendu ta voix dans la nuit, comme si tu venais de traverser ta mort dans l'autre sens et que cela t'avait épuisé, qu'il ne te restait plus assez de force pour faire un pas de plus. Je dormais, ta voix était retenue, presque hésitante, inquiète. Tu n'as rien dit, que mon prénom, comme si tu voulais simplement t'assurer que j'étais là. J'ai répondu de façon interrogative « Oui ?» Puis les puissances du sommeil m'ont repris. Les oiseaux dans la forêt récitent la liste des saints que nous ne sommes pas. La langue du chat brasse l'eau et la lune dans le bol. Les feuilles d'automne savent mon prénom. Il éclate sous mes pas. Quelqu'un dans les ténèbres nous appelle sans nous contraindre, ne nous demande rien, sinon un sourire. La vie est terrible, mais comment lui en vouloir ? Je lui souris comme la fleur fleurit et comme le nuage passe, pour rien. Pour l'amour du très précieux et très noble rien. Les jours s'entassent comme des flocons de neige. Je n'ai pas tout déchiffré de ton appel dans la nuit. Ta voix semblait fraîche encore de la rosée de vivre. Tu sais combien j'aime lire. J'en perdrais la vue de regarder les étoiles et les livres. Ceux-ci s'ouvrent en deux, comme les fougères. Dans un dictionnaire du XVIIe siècle, on dit que les fougères portent, gravées sur leurs racines, l'image d'un aigle aux ailes déployées. La vérité s'atteint toujours par un poème. La théologie très gaie des gouttes de pluie, la savante douceur d'une brise. Les morts sont cette race généreuse qui se souvient de nous et invente des berceuses pour les vivants. La patte de lion du soleil sur mon visage, ne plus bouger, et c'est l'éternité. Tu n'es jamais revenu. Ta voix tremble dans ma mémoire comme la lune dans un seau d'eau.
Je ne mâche pas mes mots, je ne mâche pas. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade pomme préparée à cappella sur le piano. Si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix, l'aspartame affamé mère n'est plus le corps aura pas la colère de voir sous la princesse un petit poids. Je lâche un peu de lait comme le feraient les chats. Avant de donner ma langue, je pourlèche cette fois ta douce peau. Si la cuisine vient du cœur, la musique vient de l'estomac. Et si j'aime autant les tripes, c'est que ces tripes sont à moi. Pour preuve de mon ardeur, j'écrirai au stylo d'orgeat sur la nappe à carreaux. Je ne mâche pas.
Nous vous laissons lire bien d'autres lettres dans cet ouvrage, Un bruit de balançoire, qui a été publié aux éditions L'Iconoclaste en 2017. Vous y trouverez peut-être des phrases comme celle-ci parlant à votre cœur. La vie est ce jeu où il s'agit de s'approcher au plus près de soi sans s'en apercevoir. Ou encore, la vie écrit au crayon. La mort passe la gomme. Le poème se souvient. Personne n'a meilleure mémoire qu'un poème. Ces textes ont été lus par Marie, Armel et Anne. Nous avons choisi la musique de Bach, L'art de la fugue, interprétée par l'Académie de Saint-Martin-des-Champs, dirigée par Sir Neville Mariner, puis par Glenn Gould au piano. Car Bobin en parle ainsi. Lorsque j'écoute à bas bruit les premières notes de l'art de la fugue de Bach, je vous découvre plusieurs siècles avant votre naissance, l'enfant caché dans un intervalle, retenant son souffle et comptant les étoiles sur le bout des doigts. Et nous avons choisi également la chanson de Camille, « Je ne mâche pas mes mots », qui à sa manière déploie poétiquement un art d'écrire. À bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.